Je vous propose de partager ce matin un texte dans l'Ancien Testament. C'est vrai que l'Ancien Testament est plein de héros ou de personnages. Moi, j'ai un personnage préféré, j'espère que vous en avez un, vous aussi. Ben, le mien, moi, c'est Daniel. Moi, j'aime bien Daniel. Je garderai longtemps en souvenir, en 1992 ou 13 à Saint-Lunaire, excusez-moi pour les gens de Tin Ranch. On avait eu le privilège d'avoir John Lennox pendant 15 jours. Il nous avait fait une magnifique étude sur Daniel. J'étais jeune dans la foi. Et j'avoue que ce petit personnage de Daniel, eh bien, ça m'a édifié, ça m'a beaucoup encouragé. On va lire rapidement le chapitre 1 de Daniel, la troisième année du règne de pardonnez-moi pour la prononciation des mots, de Joachim, roi de Juda, Nabuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de la race royale et de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, petit clin d'œil aux adolescents et adolescentes, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Verset 8, sur mon thème central, Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient le meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi et qui buvaient le vin. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Parmi tous ces gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens, aux astrologues, qui étaient dans tout le royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. C'est le bouton de droite, si jamais. Hein ? On va essayer. Jeune déporté, parce qu'il s'agissait d'une déportation, adolescent, Daniel se retrouve dans le palais royal au cœur de Babylone. Babylone, une ville d'hommes construite par des hommes où l'homme est au centre. Hein. New York, on appelle ça la Grande Babylone aujourd'hui. C'est, voilà. Il y a toute une image derrière. C'était aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. Wow. C'est écrit un peu petit, mais bon. Voilà. Alors, on va essayer de regarder rapidement ce matin, comme Daniel, aujourd'hui. Ben, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est tous d'accord pour dire aujourd'hui que peu de société, peu de place pour Dieu aujourd'hui dans notre monde. Je ne fais pas du tout de politique, mais simplement il y a des symboles qui sont donnés. Notre nouveau président qui a des qualités sûrement. La première visite qu'il est allé rendre, c'est auprès de Jules Ferry, je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein. Donc c'est des choses. Le référentiel. Donc peu de place. Peut-être ce message en direction des jeunes dans la foi, mais je pense que tout le monde peut trouver une signification. Toi, jeune chrétien, tu te trouves confronté aujourd'hui dans un monde fascinant sous plein d'aspects, séduisant. Je fais exprès de parler du mot séduction. Je suis un peu vieux, à nos âges, on avait les cigarettes, et les filles, et puis le rouge, et puis ça s'arrêtait à peu près là. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de vecteurs de séduction, n'est-ce pas? On les a tous dans nos poches, on a tous des écrans, on a tous des PC, chez nous on est connectés, branchés. Alors toi, jeune chrétien, l'école du dimanche, de ton enfance, les chants du culte, peut-être ça te paraît un peu loin. T'es soumis, bombardé par un enseignement, la philosophie du monde, des centaines de copains, copines autour qui te disent que tu es à la rue, que tu marches à contre-courant. Comme Daniel et ses amis, à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. On a bien compris que le roi Nabucodonosor avait repéré les meilleurs, qu'il veut les former pour pouvoir les mettre au service de son pays, donc des Chaldéens. Pour nous, adultes, ou presque vieux, n'est-ce pas? Travail, boulot, sollicitations quotidiennes. Et aujourd'hui, on peut mettre au même niveau, parce que la société le demande, hommes et femmes. On peut dire que les hommes étaient un peu plus téméraires ou un peu plus en avant quand il s'agissait de succomber aux tentations, mais aujourd'hui, pour ceux qui sont un peu branchés, souvent il y a le mot cougar qui apparaît après le mot féminin. Ça veut dire que on dit, on encourage les filles à être, d'avoir les mêmes initiatives en termes de fréquentation que peuvent avoir des garçons. Aujourd'hui, on dit ça à tout le monde. On enseigne ça. Le monde dit ça aujourd'hui. Sollicitations quotidiennes, selon les études, le boulot, tu es sûrement en contact avec des modes de pensée aux antipodes de la vie chrétienne, de ce que enseigne la parole de Dieu. C'est un combat, je crois que personne dans cette salle aujourd'hui ne peut prétendre le contraire. Comme Daniel, tu es, je suis soumis à des pressions. Quand je parle de ma foi, quand tu parles de ta foi, pas simple, souvent on te ridiculise, devant le nombre, on ose souvent peu parler, d'autres te trouvent intolérant, je trouve que c'est le mot d'actualité, n'est-ce pas, le mot intolérance. Hein, il n'y a pas besoin de même d'aborder le sujet, quoi. Hein, c'est ouf. Dans l'actualité, bien sûr, sur le mariage et par plein d'autres exemples, ô combien il est de plus en plus difficile de brandir la bannière de notre Sauveur. Il n'a jamais été prévu dans la parole de Dieu que ça allait être facile. Hein. Pour revenir à notre Seigneur, ça te fait mal quand tu entends qu'on se moque de ton maître, mort sur une croix, pour eux aussi. Alors comment s'accrocher face à tout ça? Qui suis-je vraiment? Qui es-tu vraiment? Notre identité, son moi, ça va plus loin que mon look, mon aspect, les marques de mes chaussures ou de ton téléphone, ou ainsi de suite. En tant qu'enfant de Dieu, si tu es chrétien, ton identité, elle est en Christ. Il faut impérativement centrer sa vie, son démarrage de vie chrétienne, son milieu de vie chrétienne, sa fin de vie chrétienne, centrer sur Christ. Sinon, on se noie. Vivant dans un monde qui voulait modeler Daniel aux normes du pays dans lequel il était, le jeune Daniel prit une décision pratique qui lui rappelait constamment son appartenance. Il évitait de s'identifier aux Babyloniens. Il a tout organisé sa vie pour refuser, vous verrez un peu plus loin si vous lisez, je vous invite à lire au moins jusqu'au chapitre 6-7, quand il prend les décisions de continuer de prier, en ouvrant la fenêtre, en direction, encore une fois, une affirmation, des choix de Daniel. Mes frères et sœurs, on est tous amenés à faire des choix. C'est pas facile de faire des choix. Des moments, moi, c'est pareil, hein, quand il faut témoigner, quand il y a du monde et tout. Les personnages de la parole de Dieu sont là pour nous encourager. Apparemment dérisoire, cette décision qu'a pris Daniel fut capitale pour lui. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il a pris des risques pour son Seigneur. Il est monté au front. J'avais oublié de... Voilà, c'était le titre de ce que je viens de dire. Alors c'est sûr qu'au-delà du repas, au-delà du vin, on peut mettre plein de choses autour. Comment rester pur? Ne pas se souiller par des choses quotidiennes que tous les autres font et qui ont trait au corps. La bataille va être rude. La bataille est rude et la bataille sera rude. J'ai entendu un jour un message de Mike Evans, je crois qu'il est aujourd'hui le directeur de l'Institut public de Genève. C'est un gars qui a à peu près mon âge, ou peut-être un peu plus avancé. Et à la fin de son message, je dis cette petite information pour que les jeunes ne se sentent pas seulement visés. Il disait, quand je fais un déplacement, quand je prends le train, j'essaye de m'organiser un maximum pour partir avec un frère, avec une autre personne, de telle manière à être occupé et ne pas me retrouver dans une situation pendant 6 ou 8 heures de train où, humainement, avec nos yeux, occasion de chute. Donc c'est pour tout le monde. Alors, il faut donc appeler un chat un chat. Aujourd'hui, une telle démarche, bien sûr, tentation, la bataille autour de la vie sexuelle, je ne ferai pas de dessin. Et ça, c'est pour tout le monde. Certains pensent, je peux faire ce que je veux avec mon corps. Ça n'implique pas mon moi, mon individu, mon âme. Mes péchés avec son corps affectent l'âme. La Bible ne fait pas de séparation étanche entre l'âme et le corps. Fuyons, fuyez, fuis les choses illégitimes qui vont nous emporter sur des voies délicates. Ignorez-vous que votre corps, vous le savez, le temple même du Saint-Esprit, et qu'il vous a été donné par Dieu. Vous ne vous appartenez donc pas vous-même. 1 Corinthiens 6, 18, 19. On a besoin, j'ai besoin de me rappeler ces versets, jour après jour. Guy Four a 58 ans. Si tu es chrétien, ton corps est le temple du Saint-Esprit, alors ne le souille pas. Daniel avait résolu de ne pas se souiller avant même qu'on lui présente le premier repas. Avant même qu'on lui présente le premier repas. Je n'aime pas du tout parler de mes expériences personnelles, mais vous savez que par mon métier, j'ai toujours beaucoup voyagé. Toujours beaucoup. J'ai toujours été absent du foyer. Beaucoup. Je pense que la prière que j'ai faite le plus, c'est de demander au Seigneur de me protéger de toute situation. Et le Seigneur m'a gardé. Évitons de se mettre dans des situations où on va se trouver tenté, parce qu'on le sait, la chair est faible. Et tous, on peut tomber. Sinon, quand on se retrouve devant le problème, souvent c'est trop tard. On est faible devant la pression, les environnements, hein, tous les copains, les copines sont là, les amis, les représentants, les fins de salon, les choses comme ça. Je n'explique pas, je ne vous fais pas de dessin. Si vous avez des détails, vous viendrez me voir, je ne vais pas vous en dire ici. Donc on se trouve, c'est trop tard. Quelle va être mon attitude dans le domaine de ma vie sexuelle, face à des éléments ou d'autres éléments souillés, la drogue, mais il n'y a pas que la drogue, l'alcool fait des ravages aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu, je veux dire, si aujourd'hui, si vous n'êtes pas Jones, et si tous les samedis soirs, vous n'allez pas vous blinder en faisant ce qu'on appelle du beach drinking, d'accord ? C'est-à-dire, vous, en un quart d'heure, vous avalez un litre d'alcool et vous êtes complètement shooté. Overdosés, les jeunes qui boivent dans la rue parce que l'alcool est tellement cher dans les boîtes de nuit ou dans les bistrots, que les gamins, ils vont au supermarché, frères et sœurs, ils sortent du supermarché, ils s'enfilent des bouteilles de whisky et ils rentrent dans les boîtes de nuit complètement shootés, coma éthylique. Pas besoin d'acheter du hashish ou quoi que ce soit. C'est la réalité. Méfie-toi, protège-toi. L'alcool donc fait des ravages aujourd'hui. Daniel, résolu de ne pas se souiller, vivre ainsi, c'est nager à contre-courant, c'est une réalité. Mais Dieu veut ce qui est bon pour ses enfants, c'est-à-dire veut nous protéger parce qu'il nous aime. Alors notre cœur. Alors comment protéger notre cœur ? Nos objectifs, comment bâtir nos vies, faire des choix qui vont influencer notre vie. Un verset, un beau verset qui est 1 Jean 3:3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur est pur. Je veux parler de, du, comment on se purifie ? En souhaitant le retour du Seigneur. Que chacun se purifie lui-même. La parole de Dieu nous donne des réponses. Aujourd'hui, on vous dit, dans le boulot, à l'école, de partout, il faut avoir des objectifs. Frères et sœurs, notre objectif, c'est le retour du Seigneur. Mettons nos vies en perspective, peu importe de quelle manière, on ne va pas se battre de quelle manière il revient, mais il va revenir, c'est sûr. Si nous ne nous plaçons pas dans cette sainte espérance, jour après jour, c'est délicat si on vit sa vie d'enfant de Dieu, au jour le jour, pavé à pavé. levons les yeux et regardons. Parce qu'en regardant au but saint, la rencontre avec notre Seigneur, eh bien, ça permet toutes choses, comme on dit ce chant, pâliront peu à peu, quelque chose comme ça. Hein ? Le retour du Seigneur est une perspective qui doit et qui devrait nous enthousiasmer. Vous rappelez Mamie Piette, hein ? Seigneur, Seigneur, viens bientôt. Petit clin d'œil. Hein ? Viens bientôt. C'est pas toujours le cas. Pourquoi ? Trop attaché à la vie présente, pas trop pressé que le Seigneur revienne quand même. Hein ? Bon, allez, j'aime bien la vie, laisse-moi un peu de temps, j'ai peur de perdre ce que j'aime, je suis pas prêt, hein, laisse-moi finir ma carrière, tant de mieux. C'est sûr qu'on a des objections, on essaye de freiner un peu ça. Pourtant, la perspective du retour du Seigneur va nous aider à faire des choix, à prier, à agir différemment, ou bien est-ce que c'est juste un débat théorique, un choix théologique ? Est-ce que ça a un impact dans nos vies ? Il y a quelques semaines en arrière, j'ai demandé à un frère ami, qu'est-ce que tu as fait pour le nouvel an ? Il m'a dit, j'avais envie de me retrouver avec mon Seigneur, je suis parti 3 jours, je ne connaissais personne, dans un pays étranger, et j'ai passé 3 jours dans l'intimité de mon Seigneur. 31 décembre, 30, 31, 1er. On a besoin de prendre de la distance, j'ai besoin de prendre la distance par rapport au train-train quotidien, de mettre Christ, son retour, nos vies d'enfants de Dieu en perspective. Regardons le royaume. Est-ce que mon cœur dit « Viens Seigneur Jésus » ? Daniel montrait prier, au chapitre 6, les fenêtres ouvertes du côté de Jérusalem, voir Daniel 6, 10. Et toi et moi, si j'ouvrais plus souvent mes fenêtres en direction de Jérusalem pour prier pour le retour du Christ ? Et il ouvrait les fenêtres, il ne se cachait pas la preuve, hein. Lisez la suite. Au-delà de comment ça va se passer, peu importe, cultivons l'espérance du retour du Seigneur. Elle nous donne une attitude plus juste vis-à-vis du temps, justement, de cette course, de ce speed effréné aux objectifs, n'est-ce pas ? Je m'adresse un peu au vendeur parce que j'en suis un, hein ? La course effrénée, on a le nez dans le guidon jusqu'aux oreilles. Il faut... Je pense que sans la présence de Christ dans ma vie, j'aurais explosé dans le métier que je fais, psychologiquement. Alors, j'avance. Nos pensées, comment les mettre à part pour Dieu ? Comment mettre nos pensées à part pour Dieu ? Une petite histoire, on va redescendre à quelque chose d'un peu plus cool. Mes pensées. Je passe peu de temps dans ma voiture à conduire, vous le savez. J'ai le temps de penser. Et il y a des bonnes pensées, il y a des mauvaises pensées. Je ne pense pas être le seul. Une histoire pour illustrer ce propos. Il était une fois un jeune homme qui avait le désir de marcher selon Dieu. Ou une jeune fille, hein, ça se décline. Les filles, les garçons, l'argent, le pouvoir l'attiraient tellement qu'il sombrait souvent dans une culpabilité douloureuse. C'est vrai, la culpabilité. Ça, c'est l'ennemi du chrétien, ça. Oh, sans coupable. Dans sa ville se trouvait un roi très sage. Le jeune homme prit un jour la décision de rencontrer son roi, son ami, et de lui exposer ses luttes intérieures, de discuter avec lui. Lorsqu'il l'entendit, après l'avoir écouté, le roi appela un garde. Il lui ordonna de remplir une coupe jusqu'à Rabboah de bon vin, pour ceux qui aiment le vin, ou de Coca-Cola, pour ceux qui aiment le Coca-Cola, pleine. Puis il commanda au jeune homme de traverser la ville et de ne laisser tomber aucune goutte de cette coupe. Le garde armé d'une épée le suivrait pas à pas jusqu'au soir. Le jeune homme traversa ce jour-là la ville avec d'infinies précautions, suivi de son redoutable gardien. Le soir venu, il revint devant le roi. Il n'avait fait tomber aucune goutte du précieux breuvage. Le roi demanda alors au jeune homme s'il avait remarqué les belles jeunes filles. Oh, aujourd'hui, on peut dire beaux jeunes hommes. Hein. Allons-y. S'il n'avait pas remarqué de belles filles pour ajouter au harem royal, hein, comme disait le roi. Non, j'en ai point vu, bredouilla le jeune homme. Désolé, s'excusa auprès du roi. Quelles sont les marchandises qui s'échangent avantageusement aujourd'hui sur la place de marché ? Poursuivit le roi. J'ai pas fait attention, hein. Sire, avoua le jeune homme. Voilà ton problème réglé, conclut ce roi très sage. Garde la parole comme tu as gardé cette coupe. Serre-la dans ton cœur, alors tu rendras pur ton sentier. Quelle place donnes-tu à Dieu ? Quelle place je donne à Dieu dans ma vie ? Est-ce que je serre cette coupe fort et je marche en regardant cette coupe, en attendant le retour du Seigneur ? Sans ça, on n'y arrive pas. Est-ce que je prends du temps, hein, je ne vais pas vous lisser la litanie, vous la connaissez, hein, partage de la parole, lire la Bible. Important, fais partie d'un groupe où tu te retrouves, où tu as des copains, tu peux partager la parole de Dieu, on peut s'édifier, c'est ô combien important. C'est vrai pour les adultes, pour les groupes de prière. Ne reste pas seul, pas se contenter du culte du dimanche matin. Si tu ressens le désir, après quelques années de conversion, d'aller plus loin, d'approfondir l'étude de la parole, pourquoi pas aller faire, comme certains l'ont fait, un an ou deux d'institut ou quoi que ce soit. C'est pas, même si le monde vous dit aujourd'hui que c'est une folie, et alors, c'est pas le monde qui nous dirige, c'est Dieu qui nous dirige, c'est le Christ. Ne laissons pas le monde, c'est pernicieux, influencer nos raisonnements, nos modes de pensée, demain nos modes de vie. Je ne sais pas si vous imaginez la solution, je ne sais pas si ça a passé ou pas, mais il était question que les livres de famille, ça ne soit plus marqué père-mère, mais parents, quoi. Enfin, voilà. Alors, en conclusion, j'ai suivi la remarque à Colin avec les PDF pour ne pas me tromper. Voilà. En conclusion, comme Daniel, je vais essayer de triompher du monde, peut-être même faire des choix. Alors, le premier chapitre. Je suis trompé. Là, il faut que je mette mes lunettes. Je suis perdu, j'arrive pas à lire. De près, je vois rien. De loin, je vois rien. N'est-ce pas ? Alors, les choix, les rappels, refuser de se soumettre. Alors, j'ai mis sexe, alcool, bien sûr, c'est des mots qui. Hein, drogue, film, lecture, vidéo, fréquentation, lecture. Ça paraît anodin. Et tout dépend ce qu'on lit, quoi. Tout dépend ce que vous lisez. Si j'avale des tonnes de bouquins qui m'éloignent de la pensée du Seigneur, vous restez chez vous, vous n'allez pas faire la fête, vous ne fumez rien du tout, vous ne buvez pas des canons, mais je ne vous explique pas la nourriture que vous donnez à votre âme. On a tous ça. Ça, vous la connaissez, cette image, hein, un grand vide en forme de Dieu en nous. Hein, il faut lui donner à manger. Alors, ensuite, avoir une vie de prière régulière, ouverte sur le retour du Seigneur, mettre en perspective. Et j'ai une toute petite pensée, un clin d'œil envers une sœur aussi qui, sûre que Daniel, quand il ouvrait les fenêtres, qui se tournait vers Jérusalem, il était dans un pays ennemi. Je suis sûr qu'il priait pour ses ennemis. Il priait pour le roi. Il priait pour que le chef des eunuques prenne soin d'eux, tout ça. Gardez la coupe de la parole de Dieu quotidiennement, serrée dans son cœur. Si ce n'est pas la coupe de Dieu qu'on sert dans ses mains ou sur son cœur, c'est une autre coupe qu'on sert. Le vide, ça n'existe pas. Si ce n'est pas Dieu, ça sera remplacé par autre chose. Comme Daniel vit dans la sainte crainte de Dieu, il faut appeler un chat un chat. Nous devons vivre, nous avons changé de maître. Voilà. Même si c'est pendant l'air du temps. Ou combien dans le livre de Daniel, on va voir que dans les situations difficiles, on peut, nous pouvons nous appuyer, je peux m'appuyer, tu pourras t'appuyer sur Dieu fermement. Et il faut s'en rappeler, parce que dans les situations de difficulté, de stress, de combat, on a vite fait de se tourner, des fois pas sur le bon appui. Vous connaissez hein, tous ce verset, nous devons vivre dans ce monde, mais ne pas être de ce monde. On n'est pas de ce monde. Hein. C'est Jean 17, 10 à 16. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Dieu nous veut libres en lui. Dieu nous veut libres en lui. Daniel nous rappelle aussi la bonté et la bienveillance de Dieu quand je prends position pour lui. Ça, c'est un encouragement pour chacun. C'est pas simple. Quand je prends position pour Christ, quand je mets ma foi en danger, on a le Seigneur est avec nous. Certains vont où aller ou vont retourner sur les marchés, tout ça, c'est prendre position. On va annoncer la parole de Dieu à certaines personnes au cours de ce repas, on prend position. Ne pas baisser les bras. Je vais m'arrêter, je vais vous laisser ce bon verset. 1 Jean 5, 4, 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frères et sœurs, si tu nourris ta foi, si je nourris ma foi, je triomphe du monde. Si je ne la nourris pas, c'est lui qui triomphe. Au quotidien, je parle. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore pour ces instants, pour ta parole, Seigneur, qui nous nourrit, qui nous exhorte et qui nous enseigne. Seigneur, merci d'avoir mis ces personnages, Seigneur, comme Daniel et tant d'autres, dans ta parole pour nous encourager. C'est vrai que ce Daniel était jeune, Seigneur, il était déporté, et pourtant, ô combien il vivait sa foi, Seigneur, il a pris position pour toi, et on le voit tout au long des chapitres de ce livre de Daniel. Seigneur, donne-nous peut-être de nous secouer, de nous réveiller dans notre monde occidental tellement confortable, Seigneur, de ce côté-ci de la Méditerranée, Seigneur, encourage-nous, secoue-nous, réveille-nous, Seigneur, et que vraiment ta parole soit agissante dans nos vies. Amen, Seigneur.